Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Oui, bonjour à tous. C'est samedi, c'est Mediapolis. C'est l'émission sur les rapports entre médias et politique réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassen. Et avec nous, qui nous donneront leur pronostic pour la présidence des Républicains, Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, et Pierre Ascri, éditorialiste à l'Obs. Et pour commencer, Canteloup.
Hier, Édouard Philippe a donné son discours de politique générale pour lancer l'acte 2 du quinquennat qui doit être source de profonds changements. Alain Juppé, bonjour.
Oui.
Comment vous avez trouvé celui qu'on définit volontiers comme votre héritier politique ?
Écoutez, comment j'ai trouvé Édouard, mon doudou, comme je l'appelle dans l'intimité. Eh bien, je l'ai trouvé bien, très bien. J'ai trouvé rigide, soporifique, juste chiant ce qu'il faut. Non, on voit qu'il a retenu mes leçons. Et puis vous avez vu, il lance un acte 2.
Oui.
Les gilets jaunes en sont à l'acte 238, il n'y a rien qui change. Édouard lui en peine en deux actes et pouf, tout va changer. C'est l'efficacité
redoutable d'Édouard. Oui, on voulait vous avoir ce matin pour une raison précise, c'est cette réforme des retraites.
Réforme des retraites, c'est pour ça que vous m'appeliez.
Oui. Très bien.
Oui, bon, dites les choses, vous savez, ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, je suis votre consultant troisième âge, c'est ça. Hein, Europe 1, la radio officielle des gravataires,
c'est non, ça. Mais non, mais ne vous vexez pas, c'est juste que vous connaissez bien le sujet d'abord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la mesure qui a été annoncée ? Pas de recul de l'âge légal de la retraite, 62 ans, mais des mesures pour inciter à continuer de travailler, ça veut dire quoi ça ?
Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire, écoutez, prenons un exemple. Admettons que vous ayez un métier pénible.
Oui.
Je ne sais pas, vous êtes par exemple homme politique.
Oh. C'est ça, oui.
Vous travaillez, vous prenez une branlée, puis une autre, et ainsi de suite. Mais passé 62 ans, c'est vrai que ça commence à devenir répétitif et pénible. Donc vous aimeriez, de façon légitime, partir à la retraite loin de ces têtes de nœuds de français. Bref, l'État pense que vous pouvez encore servir. Alors on vous incite, voilà, c'est l'incitation, on vous incite à aller au Conseil constitutionnel. Où vous pouvez continuer à cotiser tout en travaillant de façon, disons, plus relaxe, puisqu'il s'agit de... grosso modo, de faire du babysitting avec des vieux qui sentent la naphtaline et les médicaments.
Oh là 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 là
voilà
là
à peu près comment ça marche.
Bon, on va en rester là. Hein. Merci, monsieur Juppé.
Et oui, c'était l'ami Canteloup sur Europe 1, jeudi matin. C'est un peu dur et inexact sur le Conseil constitutionnel, mais l'imitation de la voix et du ton de Juppé est absolument parfaite. Donc, nous avons, je crois que c'est la première semaine depuis mai 2017, où l'on aura entendu beaucoup, beaucoup plus souvent le nom Édouard Philippe que Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est le signe d'un changement significatif dans la manière de gouverner, ou est-ce que c'est juste une petite parenthèse ? Françoise Fressos du Monde.
Je pense que c'est une nouvelle étape et qui est justifiée par le fait que Édouard Philippe va être au fond jugé sur la façon de mettre en œuvre les réformes. Il y a en ce moment un mot qui court chez tous les macronistes, c'est le dernier kilomètre, c'est-à-dire comment faire en sorte que les réformes qu'on vote et qu'on met en œuvre soient ressenties par l'usager. C'est au fond ce qui est ressorti du grand débat. Une sorte de ras-le-bol des citoyens par rapport à l'action publique, son inefficacité. Et donc, Édouard Philippe va être jugé sur sa capacité à mettre ou non en œuvre les réformes et à faire en sorte que le changement soit vécu de façon positive. Dans cette période-là, le président de la République a tout intérêt à se mettre en retrait. Parce qu'au fond, il donne ses directives et c'est au Premier ministre d'exécuter. Et on est vraiment là dans l'esprit de la Ve République. Alors, ce qui est difficile pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a toujours tendance, lui, à aller en avant.
Oui, hein. C'est pas son naturel.
Son naturel. Mais je pense qu'il y a quand même cette analyse-là. Et on voit bien que l'un des enjeux cruciaux de la période, c'est la réforme de l'État. C'est tout ce qui va être mis en œuvre, la décentralisation, la réforme de l'État, pour faire en sorte que la décision publique soit vécue comme plus proche du citoyen.
Et alors, dès le début de son intervention à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a voulu montrer qu'il prenait conscience de l'importance et de l'urgence de la situation. Écoutez.
Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence. Peut-être davantage encore. Cette urgence, elle nous rassemble. C'est elle qui a conduit à l'élection du président de la République. C'est elle qui a donné une majorité au président lors des élections législatives. C'est elle qui a guidé votre vote de confiance au gouvernement il y a 2 ans pour conduire un intense agenda de transformation. Les Français n'attendent pas un bilan, encore moins un exercice d'autosatisfaction. Je veux simplement dire au gouvernement et à la majorité que j'en suis fier et que je les remercie du travail accompli. Cela nous donne des motifs d'espoir et une légitimité pour continuer le travail.
Un intense agenda de transformation, ça veut donc dire que dans ce qu'ils appellent, selon l'étrange terminologie, mais peu importe, l'acte 2 du quinquennat, d'un côté on a fait un virage plutôt, entre guillemets, à gauche, plutôt keynésien, plutôt de distribuer du pouvoir d'achat aux classes moyennes, mais en même temps, et c'est délibérément que j'emploie l'expression,
oui, c'est ce que j'allais dire,
en même temps, on poursuit des réformes, alors elles, pour le coup, plutôt entre guillemets de droite, comme sur l'assurance chômage ou plus encore l'âge de la retraite, Pierre Aski.
Mais ce qui est quand même, il faudrait s'arrêter un tout petit moment sur cette séquence, c'est que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, les spéculations allaient bon train sur le remplacement d'Édouard Philippe.
Non, mais ça, vraiment la connerie en barre du microcosme. Hein, parce que, très franchement, moi, je n'ai pas pensé une seule seconde.
D'accord, mais le fait est qu'on sort de ces élections européennes.
Non, je vous arrête juste là-dessus un instant. D'accord. Ça ne vous dérange pas que pendant des semaines, les commentateurs aient embrayé stupidement sur le thème Édouard Philippe va probablement être remplacé.
Mais ce simple fait est intéressant en soi, politiquement. C'est que toutes les analyses qui ont été faites pendant des semaines par le microcosme se sont révélées fausses. Oui, que ce soit sur les gilets jaunes, sur l'impact des gilets jaunes sur les élections, sur le sort d'Édouard Philippe. Et on se retrouve avec ce Premier ministre qui continue à maintenir la tension sur l'urgence, etc. Parce que le pire pour lui serait de faire croire que, OK, on a surmonté cette crise de tout l'hiver et maintenant on s'assoit sur nos lauriers. Donc il maintient cette tension qui est une manière de continuer, de montrer que tout va bien dans le navire et on a surmonté une période de gros temps, mais on reprend notre rythme normal de réforme. Ce qui est intéressant dans son d'équilibre, parce que c'est vraiment un discours de en même temps qu'il a fait. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a du sociétal avec la PMA pour tous. Il y a du signal à droite et du signal à gauche.
Et même à droite de la droite aussi avec l'immigration.
Oui, avec l'immigration, absolument. Et moi, je suis frappé aussi par l'interview de Pascal Canfin dans Le Monde d'hier, dans lequel il divise la France en deux. Un électorat, ce sont ses mots, qui va de Jean-Luc Mélenchon à LR et ensuite LR et l'Assemblement national. C'est-à-dire que là, on a un nouveau paradigme, parce que je ne me souviens pas d'avoir entendu des gens de la majorité annexer Jean-Luc Mélenchon dans cet espace républicain. Donc c'est quelque chose d'assez frappant. Enfin, il y a une recomposition, y compris en incluant l'écologie, en incluant les signaux sociétaux vers une partie de la gauche qui ne se reconnaît plus dans le macronisme. Donc c'est un bel équilibre.
Par ailleurs, il y a eu plusieurs choses, en tout cas une chose assez inédite, ça a été la décision, non pas la décision de poser, de faire une déclaration politique générale suivie d'un vote devant le Sénat, parce que ça s'est déjà produit une douzaine de fois sous la 5e République, sauf qu'on le faisait quand on était sûr d'avoir une majorité. Et là, ils l'ont fait en étant sûr de ne pas avoir une majorité. Donc là, il y a quand même quelque chose de très étrange sur lequel je vais demander à Françoise Fressos de nous éclairer dans quelques instants.
De 10h à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1. Olivier qui est entouré ce matin de Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, et Pierre Aski, éditorialiste à l'Obs.
Alors, on va reprendre dans l'ordre, parce qu'on va aller... on va commenter ce qui s'est passé au Sénat, mais d'abord, il y a eu le vote à l'Assemblée nationale. Écoutez le commentaire de François de Rugy.
C'est un vote qui rassemble au-delà des deux groupes de la majorité. Donc, ça veut dire qu'au bout de 2 ans de mandat, non seulement la majorité est toujours là, au rendez-vous, pour soutenir le gouvernement, il y a chez les partis traditionnels de gauche et de droite une façon de se recroqueviller. Au lieu d'entendre ce que disent les Françaises et les Français, y compris lors des élections européennes, c'est-à-dire le clivage gauche-droite n'est plus très pertinent, eh bien, il y a plutôt une surenchère dans l'opposition, une forme de repli sur soi et un peu identitaire.
Oui, parce que il faut rappeler que lorsqu'il a engagé sa responsabilité une première fois en juillet 2017, Édouard Philippe avait recueilli 370 pour, et cette fois-ci, c'était moins, 363, je crois, de mémoire. et surtout 119 abstentions, parce que les trois quarts des Républicains s'étaient abstenus, alors que là, ils ont voté massivement contre. Quand François Drugy dit que le clivage droite-gauche, gauche-droite, n'est plus pertinent, n'est plus guère pertinent, est-ce que vous êtes d'accord, Françoise Fressos ?
Je pense que ce qui est sorti des élections européennes et qui confirme un peu le diagnostic qu'on avait pu faire au moment de l'élection présidentielle, c'est que ce clivage gauche-droite existe peut-être encore, mais qu'il est fortement atténué et qu'il est pratiquement plus dominant dans la vie politique française. Ce qui est intéressant dans cette évolution des votes de confiance, c'est qu'on voit bien que les deux grands partis qui avaient incarné l'alternance sous la Ve République, LR et le Parti Socialiste, sont en très grande difficulté. Au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, une partie de ces deux groupes s'était divisée avec quelques pour, de l'abstention, du vote contre. Là, on sent qu'il y a une sorte de réflexe de survie et on est beaucoup plus dans le vote contre. Donc, il y a une sorte de clarification des oppositions. On a une opposition de gauche, une opposition de droite. Autrement dit, par exemple, Mélenchon n'est plus le seul à incarner le vote contre. Maintenant, le Parti Socialiste est contre. Du côté des Républicains, pareil, c'est-à-dire ceux qui étaient plutôt tentés par l'abstention, sont aujourd'hui dans le vote contre. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression que Emmanuel Macron est en train de siphonner leurs électeurs et qu'il faut impérativement s'opposer à lui pour éviter, pour freiner cette fuite. Alors, donc c'est intéressant parce que ce vote de confiance, effectivement, il est moins important qu'en 2007, mais il n'est pas révélateur de la réalité de la situation politique, qui est que effectivement Emmanuel Macron siphonne, et notamment siphonne les électeurs de droite.
Alors, donc, on peut avoir une lecture donc, des élections européennes comme quoi c'est une accentuation assez considérable du bouleversement déjà opéré en 2017. C'est la première fois que les têtes de liste des quatre listes arrivées en tête, enfin première, deuxième, troisième, quatrième, refusaient de se reconnaître dans le clivage droite-gauche, refusaient de se dire de droite ou de gauche. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est terminé ?
Ouais, je pense que c'est allé un peu vite en besogne.
Parenthèse proportionnelle européenne intermédiaire.
C'est allé un peu vite en besogne parce que regardez le vocabulaire.
L'éditorialiste à l'Obs considère que c'est allé un peu vite en besogne.
Ben oui, regardez le vocabulaire que nous employons à propos des annonces d'Edouard Philippe, des marqueurs de droite, des marqueurs de gauche. Oui. On continue à utiliser ces références. Alors peut-être que c'est nous qui sommes dépassés, mais on continue à utiliser ces références, les valeurs qui y sont attachées. Ce qui a changé,
non, mais
c'est
vous avez absolument raison.
Ce qui a changé, c'est le comportement des électeurs.
Quand on dit que le clivage dominant maintenant serait un clivage. Alors, quand c'est le vocabulaire de Macron, progressiste conservateur. Quand c'est le vocabulaire de Buisson, libéraux antilibéraux. Peu importe. Non, quand c'est le vocabulaire de Le Pen, nationaux mondialistes. Mais tous disent ça. Et en effet, vous avez absolument raison. Et c'est très intéressant, Pierre Aski. C'est que si on prend nos commentaires des discours politiques. Si on met d'un côté, combien de fois est-ce qu'on parle de l'opposition ? Combien de fois est-ce qu'on dit « Ah, c'est une proposition nationaliste !»« Ah, c'est une proposition progressiste !»« Ah, c'est une à peu près zéro !» En tout cas, infinitésimale. Et donc, on ne peut pas faire autrement que d'avoir cette grille de lecture. Donc, elle a de la pertinence.
Elle garde de la pertinence. Et en plus, je pense que ce qui a changé, c'est le comportement des électeurs qui, effectivement, peuvent être de valeur de gauche et voter néanmoins pour Emmanuel Macron parce qu'ils se reconnaissent dans sa politique européenne, aux élections européennes, et ne pas pour autant abandonner ce marqueur identitaire politique traditionnel.
Les électeurs sont comme nous, c'est-à-dire, enfin comme nous, les électeurs disent
nous sommes aussi électeurs.
Massivement, les électeurs disent massivement, enfin les Français sondés, bon, disons les électeurs, disent massivement que le clivage droite-gauche n'est plus pertinent, genre 70%, et les électeurs, à 80%, quand on leur demande, se situent sur l'axe droite-gauche. Donc ils font comme les commentateurs quand on lit avec cette
grille. En étant macronien de droite ou macronien de gauche, paradoxalement.
Mais moi, il me semble qu'un des critères de la période, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que ce que demandent les électeurs, c'est d'essayer d'être plus efficaces dans l'action publique. Et ils ont un peu le sentiment qu'au fond, les clivages gauche-droite antérieurs n'étaient pas pertinents pour essayer de faire quelque chose de plus efficace. Ça, ça me frappe énormément. Par exemple, la droite, pourquoi une partie de la droite s'est ralliée à Macron? Parce qu'ils disent, au fond, tout ce que la droite nous a promis et n'a jamais fait, il est en train de le réaliser. Et ça,
oui,
c'est quelque
qu'on
chose.
On disait qu'on ferait
voilà,
et qu'on n'a pas fait.
Exactement. Oui. Et ça, je pense que c'est un des critères très importants de la période. Et ça revient à ce que je vous disais au début. Je pense que il faut maintenant prouver qu'on est capable de réaliser des réformes, de transformer de façon positive et de faire en sorte qu'il y ait une efficacité de l'action publique. Et donc, si effectivement le système de valeurs reste pertinent, gauche, droite, extrême droite, il y a une volonté dans l'action publique d'être plus efficace et d'essayer peut-être une nouvelle façon de fonctionner.
Et juste un petit ajout. Est-ce que les électeurs, les jeunes électeurs qui ont mis les Verts en tête, puisque le vote vert est premier chez les très jeunes électeurs, est-ce que quand ils votent vert, ils votent à gauche? Ou est-ce qu'ils votent d'abord écologistes ou pour sauver la planète? Et là, il y a un petit mystère. C'est-à-dire, est-ce que
moi,
au niveau de ces nouveaux électeurs...
Moi, je dis qu'ils votent d'abord climat.
Oui,
et là, c'est très frappant
là,
dans l'engagement
la rupture
des jeunes.
Dont on
je
ne
dis pas tous les électeurs ELV, il y a des électeurs Jadot qui sont des électeurs de gauche déçus de Macron. Mais chez les jeunes, la nouvelle mobilisation, elle est comme ça. On y revient dans quelques instants, et notamment sur les déboires du coup, d'à gauche de la gauche.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec également l'éditorialiste au Monde, Françoise Fressos, et Pierre Aski, éditorialiste à l'Obs.
Et ce matin, à part sur Gilets jaunes TV, BFM TV, il n'y a quasiment pas de Gilets jaunes. Et BFM Gilets jaunes TV nous en montre juste quelques-uns, Claire Sommet à la Bastille. Mais il y a quand même quelque chose qui pose problème dans l'analyse et qu'il faut essayer de comprendre. Et je pense que ce n'est pas très facile. On nous a expliqué que le mouvement des Gilets jaunes était le signe d'une fracture sociale très profonde, que une grande partie du pays était derrière eux. Et d'ailleurs, ils s'affirmaient eux-mêmes comme le peuple. Et puis arrivent des élections et l'élite Gilets jaunes, insignifiante. Celui qu'on voyait tout le temps à la télévision, l'abruti dont je ne citerai pas le nom, a fait 0,01% et deux voix dans sa commune. Les listes d'un des mouvements qui s'est le plus ouvertement dit en harmonie avec les Gilets jaunes, la France insoumise, se sont effondrées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un décalage total entre le social et le politique? Ou ça veut dire qu'on a absolument surestimé l'importance du mouvement des Gilets jaunes?
Moi, je pense que c'est la première formule qui est la bonne, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes a été le reflet d'une vraie fracture sociale, d'une vraie problématique de développement de ce pays, et qu'une majorité de Français a reconnu que c'était vrai, et s'est donc solidarisé de ce qu'a incarné ce mouvement initialement, et que ce mouvement s'est perdu dans ces méandres à la fois de l'expression de ses porte-paroles divers et variés, dans la violence évidemment, dans les débordements et dans les récupérations politiques qui, à l'arrivée effectivement dans les élections, ont fait pchit.
Mais alors pourquoi François Ressouche, pourquoi quand un pays est supposé aller mal, quand il est supposé aller mal notamment socialement, quand il y a un parti nouveau, relativement nouveau, donc qui ne correspond pas au vieux canon, comme la France insoumise, qui veut se faire le porte-parole de ce nouveau populisme, il passe de 19% à 6%.
Et bien parce que je pense que vous oubliez dans votre raisonnement un autre acteur très important qui est Marine Le Pen. Je pense que c'est Marine Le Pen qui a profité au fond et qui a récupéré le mieux le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'elle est positionnée sur cet électorat depuis des années. Elle appelle ça les justes en dessous, c'est-à-dire les personnes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois.
Mais attendez, en termes de discours politique, excusez-moi, mais c'était Mélenchon et ses amis qui tenaient le discours social, et elle continuait sur le discours anti-immigré alors que les Gilets jaunes n'ont jamais posé la question tellement de l'immigration.
Elle n'était pas uniquement sur le discours identitaire et immigré, elle a tout un discours social, et je pense que ce qui s'est passé là, ces élections-là, c'est le fruit de tout l'investissement qu'elle a fait dans les milieux populaires. Et elle est la première hein, sur l'électorat ouvrier et employé. Et elle est vraiment positionnée sur cet électorat-là. Et je pense que c'est ce qui explique les difficultés de Jean-Luc Mélenchon. Elle a fait, au fond, cette synthèse de l'électorat ouvrier et employé sur ce qu'on appelle vraiment le social identitaire. C'est-à-dire, elle a mélangé la question sociale, la question anti-immigrée. Et elle a réussi, depuis des années, à au fond, installer un électorat qui lui est extrêmement fidèle. Et au fond, le résultat des européennes, on aurait pu estimer qu'après son débat face à Emmanuel Macron, elle s'écroule complètement. Non, elle résiste et elle a un électorat qui est extrêmement structuré. Et je pense que la victime de ce phénomène, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le débat parce que je pense que c'est la première fois qu'un débat a eu de tels effets politiques et qu'on les a un peu surestimés par rapport à ce qu'est une vie politique normale. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, il a quasiment prononcé son oraison funèbre à l'Assemblée nationale mercredi.
Compte tenu de notre résultat électoral, je suis parfaitement conscient de la difficulté de notre situation pour mener le combat. Le rapport de force est lourdement défavorable pour nous. La suite du combat s'annonce donc pour nous dans des conditions très dures. Nous les assumerons.
Il pose une première question. Est-ce que ce recul ou retour à la faiblesse antérieure, comme on veut, de la France insoumise, retour à la faiblesse antérieure, si on dit que ça n'était qu'une variante du parti de gauche et allié au parti communiste, et non si on constate que c'était un mouvement qui prétendait tout à fait différent. Est-ce qu'il est profondément durable ou est-ce que ça n'est qu'un mauvais temps à passer dans une conjoncture défavorable ? Réponse de Pierre Aski dans quelques instants.
L'éditorialiste à l'Obs, Pierre Aski et l'éditorialiste au Monde, Françoise Fresseau, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Et je résume la question à Pierre Aski. La France insoumise, c'est fini ?
Alors, Jean-Luc Mélenchon paye aujourd'hui le grand écart qu'il a fait pendant la crise des Gilets jaunes entre, pour résumer, la ligne de gauche et la ligne populiste, et qui est devenue intenable, mais qu'on retrouve, c'est une crise qu'on retrouve dans les mouvements équivalents dans les pays voisins. Podemos a connu une crise récemment, Syriza l'a connu précédemment, Die Linke en Allemagne a les mêmes clivages, donc c'est un peu inhérent à ce positionnement de la gauche de la gauche. Est-ce que c'est durable ? Moi, je pense qu'il a perdu, il est tombé de son piédestal. Jean-Luc Mélenchon avait réussi le tour de force qui était le but qui s'était assigné, c'est-à-dire d'être la gauche et de remplacer le Parti Socialiste. Il avait réussi à profiter véritablement de l'effondrement du PS. Aujourd'hui, il est revenu au même étiage que le PS, donc les compteurs sont remis à zéro à gauche, et je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure aujourd'hui, lui-même, après toutes les plumes qu'il a perdues, de remonter aussi vite, sans clarification qui se fera dans le sang.
Alors ça nous amène à nous interroger sur les populistes et dans le fond les différentes formes de stratégie des populismes. Et ce que je trouve très intéressant, donc on a pu entendre le débat de ces derniers jours, il y a eu une seconde intervention de Marion Maréchal pour l'anniversaire de son école, il y a eu une longue interview par David Pujadas sur LCI de Patrick Buisson, et il y a eu plusieurs interventions plus ou moins brèves de Marine Le Pen. Et dans le fond, on voit qu'il y a trois stratégies populistes différentes. Il y a celle que j'appellerais la stratégie hongroise, qui est que le parti populiste d'extrême droite devienne le parti dominant. Et ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen, la hongroise. Vous avez la stratégie autrichienne, qui est que l'extrême droite populiste passe alliance avec la droite classique pour gouverner le pays. Et ça, c'est la stratégie de Marion, très clairement explicitée. Et puis enfin, vous avez la stratégie italienne, qui est de faire une alliance entre le parti d'extrême droite et un mouvement populiste plutôt de gauche, et c'est la stratégie défendue par Patrick Buisson. Alors, si vous êtes d'accord avec cette façon de poser le tableau, laquelle de ces trois stratégies vous semble la plus pertinente pour la France, Françoise Fresseau ?
C'est difficile.
Vous allez avoir du mal à me répondre.
Oui, j'ai du mal à vous répondre parce qu'au fond, on voit bien que c'est cette espèce de limite sur laquelle bute Marine Le Pen. Elle, ce qu'elle aimerait, et on le voit bien, elle fait des appels du pied au ciel électoral de Mélenchon. Je pense qu'elle, elle est dans l'idée que ce sera elle, finalement, la représentante des populistes. Et je pense que, là encore, l'analyse électorale est très importante, c'est-à-dire qu'elle a, elle est dominante dans ce qu'on appelle les milieux populaires, c'est-à-dire un électorat qui est quand même, qui peut faire les élections. Donc, elle, sa stratégie, c'est de dire... On se rassemble autour de moi. J'essaye de récupérer aussi ceux qui étaient du côté de Mélenchon. Voilà.
Est-ce que c'est celle qui a le plus de chances de l'emporter?
Et ben la difficulté,
de,
c'est que
d'amener les populistes au pouvoir.
Et ben la difficulté pour elle, c'est qu'on voit bien que c'est pas suffisant dans le contexte actuel pour lui faire remporter l'élection présidentielle.
Oui, mais Orban, c'était pas suffisant avant que ça le devienne.
Alors après,
la Ligue, c'était pas suffisant avant qu'elle progresse.
Au fond, moi, ce que je me demande, parce qu'au fond, on a aussi dit beaucoup, Marine Le Pen était contre les alliances, mais je ne suis pas si tellement sûre de ça, parce que souvenez-vous, quand elle avait essayé de tendre la main à Nicolas Dupont-Aignan pendant la campagne des présidentielles, moi, je pense qu'elle veut arriver au pouvoir. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment opposer la stratégie de Marine Le Pen avec celle de Marion Maréchal Le Pen? J'en suis pas tellement sûre. Je me demande si, au fond, les deux ne sont pas en train, l'une et l'autre, d'essayer de faire en sorte qu'à un moment, le Rassemblement National arrive au pouvoir, et quelle que soit la stratégie.
Alors, on peut déjà éliminer la stratégie autrichienne avec l'effondrement de LR, parce que la stratégie autrichienne, elle repose sur une droite traditionnelle forte.
C'est ce que dit Buisson. Buisson dit en 2007, ça avait du sens, parce que le rapport était 3 à 1 en faveur de la droite de gouvernement, et l'extrême droite à 1. Aujourd'hui, c'est 3-1 dans l'autre sens. Donc, voilà, ça n'a plus. Du coup, cette stratégie qui était la sienne, hein, qui a porté Sarkozy au pouvoir, n'a plus
Et l'Autriche elle-même a volé en éclat.
Absolument, absolument.
Donc, ça, c'est out.
Donc, voilà.
Reste les deux autres. Le problème de l'Italie, c'est que. Ça a été rendu possible par la pulvérisation du paysage politique et l'absence d'un Macron qui ramasse les miettes en même temps de tous les côtés. On n'est pas dans cette configuration en France. Et moi, je rejoins Françoise, il y a un problème de plafond de verre, c'est-à-dire que elle peut progresser, elle peut récupérer effectivement aussi bien une partie de la droite, devenir la Hongrie, le Fidesz de la France, mais il y aura une limite à ça. Est-ce que ça devient majoritaire?
Vous croyez encore au plafond de verre?
Je pense que d'abord le système présidentiel fait que à deux tours introduit cette limitation, et deuxièmement, le réservoir, il est où
pour arriver à 50%. Mais tout ça peut se bousculer complètement. Regardez juste comment au Brésil, un petit candidat d'extrême droite est devenu en quelques semaines celui qui a gagné la présidentielle. D'ailleurs, on y revient dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel, avec Mediapolis. Et ce samedi, Olivier, vous recevez Pierre Aski, éditorialiste à l'Obs, et Françoise Pressos, éditorialiste au Monde.
Et j'objectais à Pierre Aski, qui croit à la persistance d'un plafond de verre empêchant Marine Le Pen de gagner le second tour d'une présidentielle, que dans les temps politiques nouveaux, absolument tout et n'importe quoi est devenu possible, en prenant l'exemple du Brésil. Alors Alice Baudry, qui dirige la stratégie et le développement à l'Institut Montaigne, qui surveille pour nous les médias internationaux, m'a repéré un article du New York Times de lundi par Ernesto Londono et Leticia Casado, sur justement ce qui se passe là à l'instant, cette semaine au Brésil. Les fuites de messages privés ont mis en doute l'intégrité de la vaste enquête sur la corruption qui a touché l'establishment politique du pays et secoué une grande partie de l'Amérique latine, au-delà même du Brésil. Des extraits de conversations téléphoniques publiés dimanche soir par le site de nouvelles en ligne The Intercept suggèrent que Sergio Moro, le juge le plus en vue impliqué dans toutes ces affaires, dans le scandale dit Lava Jato, ou car wash, ou laver la voiture, a consulté et conseillé les procureurs fédéraux sur la stratégie à suivre. Des révélations multiples qui prouvent que quand on a condamné Lula pour corruption et blanchiment, ou qui prouveraient que lorsqu'on en a condamné Lula, l'ancien président, pour corruption et blanchiment d'argent, et qu'on l'a rendu inéligible, c'était pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et Lula a été reconnu coupable, je vous rappelle, de corruption et de blanchiment d'argent pour avoir accepté, dit-on, $1 million des travaux d'une entreprise de construction en échange de contrats. Et certaines de ces discussions seraient peut-être illégal, selon des experts en droit, qui ont prédit que les révélations pourraient aider les avocats de la défense dans les affaires en cours et offrir de nouveaux motifs d'appel de condamnation. Moreau, qui est donc mis en cause, le ministre de la Justice, puisque le procureur avait ensuite été nommé ministre de la Justice, a déclaré dans les... le juge Moreau a déclaré dans les derniers jours que les messages ne montraient pas qu'il avait agi de manière inappropriée et a qualifié la couverture de The Intercept de, je cite, « sensationnaliste ». Donc ça, c'est un incroyable retournement qui montre qu'il y a quand même une fragilité aussi des populistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir. En Autriche, le leader de l'extrême droite est tombé parce qu'il s'est fait piéger dans une fausse proposition de corruption avec un oligarque russe. Là, on va voir comment les fers se développent. Il y a eu une grève générale cette semaine, mais le pouvoir, nouveau pouvoir brésilien d'extrême droite est tout à fait fragilisé. Aux élections européennes, finalement, les populistes n'ont pas eu la percée considérable qui était annoncée. Est-ce que c'est le signe d'un début de retournement, par exemple, Françoise Fressos ?
Non, je ne crois pas. Moi, je pense que... là encore, il faut, je pense, aller voir les cartes électorales et regarder la structuration de l'électorat. Si on reste en France, Marine Le Pen consolide son électorat d'élection en élection. Et au fond, on est en France sur... presque une thématique de lutte des classes, c'est-à-dire que ceux qui vont bien votent Macron et ceux qui vont mal vont plutôt du côté de Marine Le Pen. Donc je pense qu'on reste sur un volcan et que s'il y a la moindre faute dans la fin du quinquennat, il peut y avoir, moi je pense que le plafond de verre peut sauter. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. On est dans des situations où les gens ne supportent plus la moindre injustice ou le moindre sentiment de délaissement et donc il peut y avoir cette structuration. Pour en revenir à ce qui se passe chez Lula. Ce qui me frappe, moi, c'est que visiblement, les révélations n'ont pas eu tellement d'influence sur la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mouvement d'indignation sur les révélations de l'implication du juge Moreau. Donc ça m'interpelle aussi, où je me dis, est-ce que finalement, on s'habitue...
Un peu de la même manière, d'ailleurs, que les enquêtes en cours, quand elles mettent en cause Marine Le Pen au Parlement européen voilà. Et l'utilisation voilà. Frauduleuse d'assistants,
est-ce qu'on s'habitue au fond
du tout.
Voilà.
Parce
oui,
que dans parce le fond, pour les électeurs, ils disent tout ça sont des manœuvres pour fragiliser...
Oui. Parce qu'en fait, ces révélations, elles n'innocentent pas Lula. Elles montrent qu'il y a eu des manœuvres pour l'empêcher de se représenter oui. Et donc de gagner de nouveau les élections, mais elles ne l'innocentent pas. Et le clivage, la polarisation qui est apparue dans l'élection, le rejet du Parti des Travailleurs et de Lula, qui a été assez massif, c'est une sorte de déception qui s'est transformée quasiment en haine, reste intact. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Bolsonaro a un bilan désastreux, et qu'il est extrêmement impopulaire, que ses mesures tous azimuts n'ont pas d'effet, et il a perdu sa popularité. Ce que ça montre tout simplement, c'est que les gens qui profitent de ce désaveu de la politique avec un grand P sont souvent des seconds couteaux de la politique. Bolsonaro, il était dans le circuit depuis 20 ans, c'était le député obscur que personne ne regardait, qui tout d'un coup se trouve à occuper le vide que personne n'est en mesure d'occuper. Et il se retrouve président sans majorité à l'Assemblée, avec des militaires autour de lui, etc. Et il est incompétent
et incapable de... Mais il reste que ce paradoxe que le populisme qui fleurit notamment sur la corruption, lorsqu'il peut être mis en cause, lui, pour des affaires de corruption, ça ne l'atteint pas. Et
oui, c'est
je fais le parallèle avec ce qu'on disait, je crois, la semaine dernière ici, sur les attaques de la presse, les critiques de la presse, les dévoilements de mensonges de la presse sur Trump, qui ne nuisent en rien à Trump.
Alors, je vais vous donner le contre-exemple. C'est ce qui vient de se passer en Roumanie, où ce pouvoir, alors c'est le populisme de gauche, c'est des sociodémocrates, tendance mafia, qui étaient au pouvoir... accusé de corruption, il y a des manifestations monstres à Bucarest. Le président de la République roumaine, qui est un libéral, qui a une cohabitation complexe, a organisé un référendum le même jour que les élections européennes.
Absolument.
Contre les mesures du gouvernement pour freiner la lutte anticorruption.
Et il a gagné.
Il a gagné. Le président de l'Assemblée nationale est rentré en prison.
Le grand chef du parti
social-démocrate est rentré en prison le lendemain pour 3 ans et demi.
Absolument.
Et donc là, on est dans le contre-exemple où la corruption a provoqué un ras-le-bol d'un parti qui dominait tout.
Donc, absolument aucune raison de désespérer.
Absolument.
D'ailleurs, peut-être pas de raison de désespérer non plus pour les Républicains. On va le voir dans un instant.
Vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis jusqu'à 11h sur Europe 1. Et à vos côtés aujourd'hui, Olivier, deux invités. L'éditorialiste au Monde, Françoise Fressos. L'éditorialiste à l'Obs, Pierre Aski.
Et dans la semaine, on a assisté aussi dans tous ces tourments, bouillonnements du microcosme politico-politique, à la recherche d'un salut, d'une solution en tout cas pour la présidence des Républicains depuis que M. Wauquiez l'a quitté. Et on s'est tourné de tous côtés vers Nicolas Sarkozy qui a clairement fait savoir que pour lui c'était du passé, qu'il n'était pas élu, qu'il n'avait pas à se mêler de tout ça. Alors une des choses que j'ai trouvé assez intéressante et inédite médiapolitiquement, c'est qu'un mouvement s'est dessiné vers Christian Jacob, le président du groupe, et que évidemment, sous sceau de l'anonymat, un responsable des Républicains a dit « Oui, ce serait bien de le choisir parce qu'il n'a pas d'avenir. » Alors ça, je pense que c'est la première fois que j'entends qu'il faut mettre à la tête de son parti quelqu'un dont on est sûr qu'il n'a pas d'avenir. Est-ce que ce n'est pas le signe ultime d'une forme de décrépitude, Françoise Fressos?
L'évolution, elle est déjà en cours depuis plusieurs années hein, sur cette décrépitude des partis politiques. Avant, on attendait d'un parti politique qu'au fond, il fixe une ligne, qu'il attire à lui des adhérents et des militants, et puis qu'il fabrique un candidat à la présidentielle. Et on voit bien que la mécanique, elle s'est enrayée depuis déjà assez longtemps. Ça a commencé à gauche, dans la foulée sans doute de cet événement énorme qui a été la disqualification de Lionel Jospin à la présidentielle de 2002. Et puis on l'a vu aussi ensuite à droite où au fond le parti était incapable de faire émerger un leader. Donc on a eu le phénomène de la primaire qui s'est passée à gauche dans des plutôt bonnes conditions en 2011 et puis qui n'a pas marché ni à gauche ni à droite à la dernière élection présidentielle. Et aujourd'hui, on se retrouve au fond dans un système où le parti n'est plus capable de trouver son leader, la primaire n'est pas la bonne solution et donc comment vont apparaître maintenant les leaders à gauche et à droite? C'est la grande question. Mais regardez ce qui se passe aussi au Parti Socialiste. Au fond, Olivier Faure, pendant la campagne des Européennes, il en appelait à Bernard Cazeneuve, comme si lui-même sentait qu'il n'avait pas la carrure, lui, premier secrétaire du PS, pour candidater à la prochaine présidentielle. Donc c'est un phénomène qui, à mon avis, existe depuis quelques années déjà.
Pierre Aski.
Bon, on va choisir Christian Jacob pour ne pas choisir, c'est-à-dire pour ne pas réveiller des guerres de chefs, des guerres de courants qu'on est incapable de gérer et qui ne ferait qu'accentuer la mort du parti. Donc on prend un homme qui effectivement sans doute n'a pas d'avenir au sens où il ne pourra pas être le candidat à la présidentielle. Et c'est un paradoxe, mais je pense que l'urgence pour eux, c'est d'afficher une unité de façade et d'arrêter l'hémorragie. Christian Jacob, président du groupe, tout ça est une bonne figure de bonhomie républicaine pour arrêter l'hémorragie.
Oui, à condition que ce soit pas reculer pour mieux reculer. Et pendant ce temps-là, on constate que l'électorat d'Emmanuel Macron, enfin de En Marche aux Européennes, c'est un électorat qui s'est droitisé, c'est-à-dire qu'il a conquis plus d'électeurs, nettement plus d'électeurs de droite que de gauche. D'aucuns disent que sa politique est une politique qui est quand même très très largement de droite et qu'il fait la politique que la droite aurait dû faire et que c'est pour ça que ça satisfait. Certains résument en disant, dans le fond, dans l'acte 2, entre guillemets, du quinquennat, il se chiraquise. Et alors, il y a une forme de chiraquisation symbolique, je ne sais pas si elle est délibérée, mais très forte. Et c'est Paul Lassen qui a mis l'accent là-dessus, Paul Lassen qui prépare cette émission avec moi, et qui signale que Brigitte Macron prend le relais de Bernadette Chirac à la tête des opérations Pièce Jaune. Et que c'est d'ailleurs Bernadette Chirac elle-même qui a proposé le nom de Brigitte Macron et qui avait émis ce souhait fin septembre 2017 lors d'un déjeuner à l'Élysée. Depuis le début du mandat, Brigitte Macron était restée extrêmement discrète. C'est la première fois qu'elle prend une fonction en quelque sorte quasi officielle. Et c'est une nouvelle manière pour elle de concevoir son rôle de première dame. Mais est-ce que ça n'est pas aussi dans ces signes un peu parfois frivoles, peut-être un peu légers, mais néanmoins non sans effet de la média politique, est-ce que ce n'est pas un signe de plus de la, entre guillemets, chiraquisation de Macron ?
Moi, je ne suis pas d'accord sur cette analyse. Je pense que Macron n'est pas du tout Chirac. C'est-à-dire, ouais. Chirac, je pense qu'il avait une philosophie... Je pense que c'est quelqu'un qui relativisait tout et qui avait parfaitement intégré le déclin de l'Occident dans son raisonnement mondial. Donc, lui, l'idée, c'était de dire, moins on remue la société française, mieux on se porte. Et donc, c'était le grand pacificateur. Emmanuel Macron, ce n'est pas ça hein, du tout. Hein. Je pense qu'Emmanuel Macron, il dit, je suis là pour faire les réformes que personne n'a osé faire et j'essaye de le faire dans un nouveau système politique. En revanche, je pense que le relais Bernadette Chirac et Madame Macron, c'est plutôt sur l'idée de la Première Dame. Quel est le rôle de la Première Dame? Et Brigitte Macron, on l'a vu aussi deux jours là à Marseille, sur l'école de la Deuxième Chance notamment. Je pense qu'elle va essayer de s'investir assez fortement dans des activités de bien public. Et je pense que c'est cette transition qui s'est faite.
Et donc voilà, pas du tout de chiracisation de Macron. Chirac, c'était le pacificateur. Macron, c'est le réformateur. Enfin, si, une chiracisation, une seule, celle de Brigitte qui prend la suite de Bernadette. Ainsi va la politique. Pendant ce temps-là, au Brésil, grève, protestation limitée, nous disait tout à l'heure Pieraski. Commençante peut-être, en tout cas dans ce mouvement de protestation, une très grande chanteuse, Maria Bethânia. Et c'est pourquoi nous avons choisi comme chanson « A tua presença morena », chanson de 2007.
Entra pelos sete buracos da minha cabeça, a tua presença. Pelos olhos, boca, narinas e orelhas, a tua presença. Paralisa meu momento em que tudo começa, a tua presença. Desintegra e atualiza minha presença, a tua presença. Envolve meu tronco, meus braços e pernas, a tua presença. É branca, verde, vermelha, azul e amarela, a tua presença. É negra, 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 a tua presença. Transborda pelas portas e pelas janelas, a tua presença. Silencia os automóveis e as motocicletas, a tua presença. Se espalha no campo derrubando as cercas, a tua presença. Coagula o choro da noite sangrenta, a tua presença. É a coisa mais bonita em toda a natureza, a tua presença. Mantém sempre teso o arco da promessa, a tua presença. Morena, 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 morena.
Morena, morena, brune, brune, à tua presença, à votre présence. Chacun peut y trouver les allégories qu'il veut. Eh bien, si se termine Mediapolis, merci donc à... notre ami Arblat qui a réalisé, notre ami Lassène qui a préparé, notre ami Justine qui nous tient à la délicieuse compagnie que l'on sait. Vous pouvez tous écouter ou réécouter sur Europe 1.fr et nous retrouver samedi prochain.